eh bien, ça, ces disputes doctrinales ou autres n'ont pas empêché l'islam de se répandre très très vite en dehors de la péninsule arabe. Dès la mort de Mahomet, les cavaliers musulmans se sont répandus vers l'est, l'ouest et le nord pour entamer la conquête. L'empire perse, qui était païen, est passé donc à l'islam en choisissant l'islam chiite. L'empire byzantin, qui était chrétien au nord, toute la Syrie, le Liban, la Palestine, la Turquie actuelle, qui est, on appelait l'Asie mineure, etc. Tout ce monde-là a été islamisé aussi, par étapes bien sûr, hein, mais quand même. Et puis vers l'ouest, l'Égypte et l'Afrique du Nord, qui sont donc passés sous la domination de l'islam. Et puis même une partie de l'Europe, en particulier le littoral méditerranéen, une partie de l'Italie. Et puis vous savez qu'en 732, c'est-à-dire un siècle après la mort de Mahomet, les Arabes musulmans étaient aux portes de Poitiers, la fameuse bataille de Poitiers, gagné par Charles Martel, qui a repoussé donc le... c'est impressionnant de voir la fulgurance de la conquête arabo-musulmane en un siècle, faire tout ça, hein. Ça montre à quel point les musulmans, les premiers musulmans en tout cas, étaient habités par des convictions extrêmement solides et fortes. Ils étaient très 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 motivés. Mais l'expansion musulmane ne s'est pas faite que par la guerre, que par l'armée. Il y a eu aussi un rôle très important, le rôle des marchands. Comme je vous l'ai dit, la péninsule arabe était une péninsule de bédouins et de commerçants. Donc très, très tôt, des musulmans se sont installés dans les pays environnants, les pays voisins, et donc ont attiré à l'islam des populations. Ce qui a favorisé aussi la conquête islamique, il faut bien le savoir, c'est la faiblesse des chrétiens. Les divisions des chrétiens qui, à ce moment-là, dans beaucoup de lieux, adhéraient à des doctrines hérétiques condamnées par l'Église, notamment concernant la doctrine sur l'identité de Jésus-Christ. Et puis, dans certaines régions, les musulmans ont été bien accueillis parce que ça permettait aux populations vaincues d'échapper à la domination de régimes hégémoniques et des pressions. Ça a été le cas en Perse, où les gens ne pouvaient plus supporter la domination de la dynastie sassanide, païenne donc, qui opprimait la population. Alors ils ont vu dans l'islam un moyen de se libérer de cette oppression. Dans certaines parties du monde byzantin, c'est pareil. L'empereur de Byzance, qui siégeait à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, exerçait une oppression aussi sur certaines populations de son empire, qui ont donc fait bon accueil aux musulmans. Et certains croyaient que, comme dans l'islam, vous allez voir, il y a des emprunts à la Bible, il y a Marie aussi, on parle de Jésus, alors ils se disaient, ben finalement, c'est une autre forme de christianisme. Vous voyez, on croyait à ce genre de choses. Voilà, alors par la suite, le monde musulman s'est doté d'un califat, donc tout de suite, hein, il y a eu le califat, mais le califat s'est installé à Constantinople à partir du 15e siècle. Là, ce sont les Turcs qui ont envahi l'Asie mineure. Les Turcs ne sont pas des Arabes, hein, comme les Iraniens ne sont pas des Arabes non plus. Les Turcs venaient d'Asie centrale et même de Chine, et ils se sont petit à petit répandus vers l'ouest. Il y a eu un attrait vers l'ouest tout au long de leur histoire. Donc ils ont conquis la Turquie par étapes, et la dernière étape qui a été décisive, c'est 1453, la prise de Constantinople, dont ils ont fait Istanbul. Istanbul, ça veut dire la plénitude de l'islam en turc. Et c'est là que s'est installé le calife. Et alors le califat musulman mais turc s'est imposé à tout le monde arabe, tout le monde musulman connu de l'époque. La Perse et le monde arabe, y compris l'Afrique du Nord, sauf le Maroc, qui n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Ottoman, c'est l'Empire turc. Ça vient de T-O-M-A-N, ça vient du nom de Ottoman, le premier calife turc. Les Turcs ont dominé tout le monde musulman, de l'époque, pendant 4 siècles, du 15e à la fin du 19e siècle. Et puis est venu Atatürk, vous avez entendu parler d'Atatürk, c'est le fondateur de la Turquie moderne en 1923. Atatürk était musulman, mais il avait du mépris pour l'islam incroyable. Il était franc-maçon, dit-on. Et bon, il est mort d'une cirrhose du foie. Vous voyez, il buvait de l'alcool alors que c'est interdit dans l'islam. Et en tout cas, il a créé la Turquie moderne en imposant un système particulier dont je vous parlerai. Et il a en même temps supprimé le califat. Je dis ça parce que depuis ce temps-là, donc depuis le 1923, le monde musulman est orphelin d'un chef. Il n'y a plus de chef unique. Le calife, au temps de l'Empire ottoman, c'était le chef temporel et spirituel, comme Mahomet. Et donc, donner les orientations en matière politique et en matière religieuse. Mais depuis la suppression du califat, il n'y a plus de calife et le monde musulman est orphelin. Orphelins, ils n'ont plus de chef. Avec donc une dispersion incroyable d'interprétations, de doctrines, tout ça, mais on en reparlera. Alors certains rêvent du retour du califat parmi les musulmans, mais on ne voit pas du tout comment ça pourrait se produire, dans la mesure où aujourd'hui le monde musulman est présent sur les 5 continents. Comment unifier ce monde-là autour d'une seule personne, c'est vraiment utopique hein, aujourd'hui. Il y a la dispersion partout, les cultures différentes aussi, qui sont parfois très éloignées les unes des autres. On peut dire qu'il y a un islam, mais des islams aussi, mais bon, on en reparlera aussi. Voilà, il faut que je m'arrête parce que je voudrais vous laisser un petit peu la parole. Oui. Oui, si vous voulez, oui, tout à fait, oui. Mais ça, c'est une question très importante dont j'aurai l'occasion de vous parler aussi lorsque j'évoquerai la manière dont les musulmans essaient de repenser, certains musulmans essaient de repenser le rapport au Coran aujourd'hui. Oui.
Quand Mahomet a reçu un ordre de l'ange Gabriel, ça veut dire qu'il le connaissait déjà et qu'il le situait comme faisant partie de...
Non, mais on ne sait pas ça. On ne sait pas. La tradition musulmane nous dit que c'est l'ange Gabriel qui a dicté le Coran à Mahomet, mais on ne sait pas si Mahomet avait une connaissance quelconque de la Bible. Non, on ne sait pas du tout ça. Je voulais vous dire quelques mots de l'islam tel qu'il se présente aujourd'hui, en dehors des pourcentages que je vous ai déjà donnés. Pour vous montrer la croissance extraordinaire de l'islam dans le monde. Je vous donne quelques chiffres. En 1900, on évaluait le nombre des musulmans dans le monde à 200 102 000 fidèles. 200 102 000 fidèles. Un siècle plus tard, en 2000 donc, leur nombre était évalué à 1 200 653 000. Et aujourd'hui, on parle de 1 500 000 Non, 1 500 000 000. Attendez, je ne me trompe pas. C'est 200 millions, 1 milliard 200 millions, c'est ça, oui. 1 milliard et demi aujourd'hui. J'ai là les résultats d'une étude faite par un universitaire de Tokyo, au Japon. Il est d'origine arabe, il s'appelle Mustafa Razi. Il estime qu'en 2020, l'islam représentera 30,6% de la population mondiale. En 2020, donc dans 9 ans. Et occupera la première place parmi les religions du monde. 30,6% en 2020. C'est une projection qu'il fait sur 2020. Vous voyez, il y a... on peut observer un spectaculaire bond en avant démographique. C'est une progression prodigieuse du monde musulman. c'est évidemment le signe d'une vitalité qui se manifeste sous toutes ses formes. Vitalité sociale, politique, religieuse, militaire aussi. Et on peut observer cette vitalité sur tous les continents où vivent des musulmans. Le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, où il y a 230 millions de musulmans. Il y a aussi des bouddhistes et des chrétiens, mais la communauté musulmane est la plus importante dans ce pays, 230 millions. Puis vient le Pakistan, avec 160 millions de musulmans. Le Pakistan a été créé comme État musulman. En 1946, je crois, des musulmans de l'Inde se sont détachés du sous-continent indien en disant « nous voulons un État musulman ». Et le mot « Pakistan » veut dire « l'État des purs ». Les purs, pureté islamique. Bon, donc l'islam est partout. En Europe, il y a environ 52 millions de musulmans. La moitié en Europe orientale, la moitié en Europe occidentale. Alors dans les pays comme la France, par exemple, il est difficile de donner un chiffre précis concernant la présence musulmane, étant donné qu'au nom de la laïcité, on ne peut pas faire référence à l'appartenance religieuse dans les recensements. On ne tient pas compte des... Mais on estime pour un pays comme la France, les musulmans maintenant au moins à 7 millions de personnes. Et moi j'habite Marseille, il y a un quart de la population est musulmane à Marseille. 250 000 musulmans sur 1 million. Donc aujourd'hui, alors que pendant longtemps c'était le cas, aujourd'hui on ne peut plus dire que l'islam est une réalité étrangère à l'Europe. Il y a aussi en Europe des populations européennes de souche qui se sont convertis à l'islam au temps de l'Empire ottoman. C'est le cas des musulmans d'Albanie, du Kosovo, de la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, etc., dans les Balkans. Hein. Donc là, il ne s'agit pas d'un apport extérieur, ce sont des Européens de souche qui se sont convertis à l'islam. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une évolution très importante sur le plan culturel aussi, et même ethnique. C'est pourquoi il ne faut pas confondre arabes et musulmans. Aujourd'hui, moins d'un quart de la population musulmane dans le monde est arabe ou de souche arabe. Moins d'un quart, vous voyez. Et puis, ne pas oublier qu'il y a des arabes chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre arabes et musulmans. Mais malgré cette évolution, il y a, aux yeux de tous les musulmans du monde, qu'ils soient arabes ou non arabes, la culture, l'identité arabe, l'arabité, tout ce qui tourne autour de l'arabité est central pour tous les musulmans du monde. C'est normal puisque c'est une terre arabe qui a servi de berceau historique et géographique à l'islam, et que c'est sur cette terre arabe que se trouvent les lieux saints de la Mecque et de Médine, où se rendent chaque année donc des pèlerins. L'affluence du pèlerinage aussi est également un signe de la vitalité du monde musulman aujourd'hui. Cette année, il y a eu 3 millions de pèlerins en même temps pour le pèlerinage à la Mecque. En même temps, 3 millions de fidèles venus du monde entier. On peut dire que pour les musulmans, tout part du centre arabe et tout converge vers lui. Bien sûr, il y a aussi la langue du Coran qui a été dictée en langue arabe. Alors évidemment, ça donne un prestige considérable à la culture arabe. Alors cette expansion rapide de l'islam, elle étonne et impressionne. Les musulmans y voient l'expression d'un dynamisme porté par une certitude. Cette certitude, c'est le triomphe inéluctable de l'islam, tel qu'il est garanti par Dieu dans le Coran. Je vous cite ça, puis on arrête ce verset-là. C'est dans la sourate 9, verset 33. Où il est dit, là ce n'est pas Dieu qui parle, c'est lui en question c'est Dieu, qui a envoyé son prophète, donc Mahomet, avec la direction et la religion vraie, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, en dépit des polythéistes. Voilà. Oui, pardon.
J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on entend par musulman quand on dit qu'en 1900 il y avait 200 millions,
oui,
et qu'en France il y a 7 millions, machin, machin. Qu'est-ce qu'on entend par musulman? Parce que pour les chrétiens, il y a une différence entre un croyant de tradition, un pratiquant.
Ah oui. Non, oui, je vous en parlerai, mais comme ça, simplement, être musulman, c'est une identité. Il y a des musulmans qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont musulmans. Oui, il y a des musulmans qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont quand même musulmans. Non, parce que quand on est musulman, eh bien, on est, de toute façon, pour les musulmans, tout être humain qui vient au monde est musulman. Mais quand dans un pays régi par l'islam, là où l'islam est la religion de l'État, la confession est mentionnée sur les papiers d'identité, à l'état civil et sur les cartes d'identité, et donc ça fait partie de l'identité. C'est un tout, voyez. Donc on peut être musulman athée, mais on est quand même musulman aux yeux de la communauté, de l'État, de la société.
C'est pas tout à fait préventatif.
Comment?
C'est pas tout à fait préventatif.
Ben non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on reprend à quelle heure, là, maintenant? À Molka. Oui, alors, il faut se reposer un peu.